Donc on a Tom Jo, ancien rédacteur de La Brique et donc auteur de ce livre L'Enfer Vert dont on va parler dans un instant. Et puis Cédric Biagini, donc l'un des responsables, coordinateurs, c'est ça,
Animateur des éditions Échappées, oui.
animateur des éditions L'Échappée qui réédite hein, ce bouquin L'Enfer Vert. Alors Tom Jo, le point de départ de ce livre, c'est quoi? C'est les RFID? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, voilà, c'est la mise en place par l'île Métropole d'une carte, la carte passe-passe que tout le monde commence à connaître dans la région. Et voilà, qui est une carte qui est dotée d'une puce RFID qui enregistre toutes les informations des voyageurs, c'est-à-dire où est-ce qu'ils prennent le bus, le tramway, etc. Et qui constitue un grand fichier des déplacements des métropolitains de l'île, quoi.
Alors, c'est le point de départ de ton travail d'enquête, mais en fait, le thème vraiment du livre, c'est l'évolution du parti, enfin des Verts à Lille et puis ailleurs, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce projet-là, il a été mis en place par les Verts, par les écologistes. Et du coup, moi, je me suis un peu demandé comment se fait-il que des écologistes, des gens qu'on imagine s'opposer au nucléaire, aux OGM, aux divers fichiers de police, etc., comment ils en arrivaient à défendre, à promouvoir un tel projet, on pourrait dire, à première vue, comme ça, de fichage un peu des déplacements. Et en fait, il s'avère que c'est plus qu'un projet de fichage, c'est aussi un projet de rationalisation. C'est-à-dire que cette carte à puce, elle permet de constamment connaître la charge des véhicules, de pouvoir prédire quand est-ce qu'il va y avoir besoin de tel ou tel déplacement, et du coup de réduire l'empreinte environnementale, on pourrait dire quelque chose comme ça. Donc c'est un projet de rationalisation, d'optimisation des flux de transport, voilà, plus qu'un projet sécuritaire, quoi.
Alors, dans l'écologie politique, il y avait déjà un petit peu, dès la création de ces idées, en fait, de cette idéologie, on peut parler ça comme ça, déjà de différents courants, quoi, un petit peu comment dire, l'écologie, pas gentil, mais je perds mes mots un petit peu.
Peut-être romantique, on pourrait dire.
Voilà, et puis une question, un truc un peu plus directif, quoi,
Plus
voire
scientifique,
dictatorial, voilà.
Ouais, on va dire technocrate, quoi. Parce que je pense pas que ce soit des gens qui aient vraiment des velléités de dictateurs ou de choses comme ça. C'est juste des gestionnaires, quoi, des gens qui veulent le faire au mieux et qui donc en viennent à développer ce genre d'outils technologiques, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'écologie, il y a une origine scientifique, et la science écologiste, qui est la science écologique, qui est l'étude en fait d'une population, qu'elle soit animale ou humaine, etc., et son milieu. Et voilà, donc ça c'est une des premières origines. Et puis l'autre, qui a plus trait avec la cybernétique, le développement de la cybernétique dans les années 50. Et puis je dirais une des grands moments de l'écologie, c'est le club de Rome. C'est un club de technocrates et de hauts fonctionnaires et de patrons d'industrie qui s'inquiètent un peu du développement anarchique de l'industrie à la fin des années 60, début des années 70. C'est-à-dire qu'ils voient arriver pas mal d'épidémies, de guerres, il commence à y avoir des pénuries, etc. Et donc ils s'imaginent que ça, c'est quelque chose de contre-productif, c'est-à-dire que ça empêche de créer une classe moyenne de consommateurs, etc. Et donc il faut réguler ce développement de l'industrie. Mais aussi, ce club était financé par Fiat et Volkswagen. Et donc on peut imaginer que pour eux, il est intéressant, il est rationnel d'optimiser, de contrôler la production de pétrole et la consommation de pétrole pour pouvoir en consommer le plus longtemps possible, quoi. Et du coup, c'est des gens qui font appel, là où on rejoint l'écologie, c'est-à-dire que telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font appel à des chercheurs, des cybernéticiens, des informaticiens du Massachusetts Institute of Technology, du MIT, une grande université américaine. Et c'est des gens qui vont produire des modèles, ils vont modéliser la planète, la diviser en 10 régions, qui vont ensuite administrer, à partir de divers graphiques, variables statistiques, qui vont transformer nos besoins en protéines, nos besoins en eau, notre capacité de production, etc., pour rationaliser un système devenu froid, devenu statistique, devenu quantitatif, etc.
Ouais, et ça s'oppose à une vision, je retrouve mes mots, c'est convivial de l'écologie, quoi. Alors ce livre, L'Enfer Vert, est d'abord paru en auto-édition, on va dire, avec les éditions Badaboum, et puis donc il a été réédité avec L'Échappée, complété d'un essai qui s'appelle Critique de la planification écologique. Alors de quoi ça parle? Est-ce que tu peux nous en parler?
L'idée, c'était de prolonger un peu cette critique vraiment du parti vert et de l'écologie politique de son essence, de la prolonger par le fait que ces idées aujourd'hui se diffusent, et notamment au front de gauche, qui est aujourd'hui officiellement éco-socialiste et plus social-démocrate, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Il y a beaucoup de militants verts qui sont déçus de comment a tourné Europe Écologie et qui se sont retrouvés au front de gauche, et notamment la figure de Proust et un peu Martine Billard, une élue historique du Parti Vert qui aujourd'hui est au front de gauche. Et donc ils ont essayé de faire une synthèse un peu entre le socialisme planificateur, le socialisme étatique, etc., qui s'oppose un peu au marché, et puis l'écologie, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans cette synthèse qui est dans ce mot qui est la planification écologique, c'est-à-dire de planifier la transition de l'économie vers l'écologie, en soutenant tel ou tel projet de recherche, en utilisant tel ou tel indicateur de richesse plutôt que tel autre, voilà, quoi.
Alors cette réflexion contre la société industrielle, réflexion aussi sur les enjeux à Lille, tout ça t'a mené aussi à un essai, un pamphlet aussi contre Euratechnologie. Là, un dernier mot aussi sur ce travail-là, sur Euratechnologie.
Ouais, parmi les stratégies de développement à Lille, le renouveau industriel se fait dans des pôles de compétitivité. Et notamment il y a Eurasanté, le Centre Européen des Textiles Innovants à Roubaix, mais aussi Euratechnologie à Bois-Blanc. C'est-à-dire que c'est, d'après Martine Aubry, la cathédrale des nouvelles technologies. C'est un endroit qui accueille plutôt des start-up, des petites entreprises, quoique là ils viennent d'accueillir une grosse boîte de vente par correspondance. Et c'est des gens qui développent notamment tous ces projets de RFID, ces projets de ville intelligente. Voilà, c'est-à-dire de produire une ville en développant les nouvelles technologies, les réseaux de capteurs, la vidéosurveillance intelligente, la prédiction des comportements, etc. Et donc effectivement, j'ai dernièrement avec le blog Orsol édité un petit texte sur Eurasanté, sur les boîtes qui sont à l'intérieur, qui développent de la biométrie par exemple, et puis pour essayer de décrypter un peu quel était leur projet, leur nouvel urbanisme en fait. Ils se proposent d'être les nouveaux urbanistes, d'un urbanisme augmenté de ces nouvelles technologies et de ces capacités de prédiction des comportements. Voilà. Et puis avec un petit mot aussi sur la cyberdéfense, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand raout international sur la cyberguerre, la cyberdéfense à Lille, début janvier, et donc j'essaie de décrypter un peu que veut dire la guerre à l'ère technologique. Et puis quels sont ces outils développés, et puis comment ils passent du militaire au civil en fait. J'essaie de montrer un peu la conjonction entre d'une part la gestion de l'urbanisme, de la consommation, du marketing, et puis comment on fait la guerre aujourd'hui avec les virus, avec les attaques cybernétiques, etc.
Alors Cédric Biagini, animateur, je vais y arriver, des éditions L'Échappée. Donc vous rééditez le livre L'Enfer Vert. Qu'est-ce qui vous a intéressé en fait dans ce livre?
Un petit peu tous les thèmes qui viennent d'être développés sont des thèmes qui sont très chers à L'Échappée. Donc tout d'abord, pour revenir sur la question de l'écologie et des différentes directions que l'écologie aurait ou a prises, hein, c'est-à-dire qu'on l'écologie arrive dans l'écologie dans sa forme moderne, en tout cas arrive dans les années 70 avec, pour moi, je pense, un vrai potentiel subversif. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va publier un livre qui s'appelle Survivre et vivre, qui est une anthologie de textes d'un groupe qui, au début des années 70, sont des chercheurs, essentiellement des gens qui viennent des mathématiques, autour de la figure d'Alexandre Grothendieck, qui est médaille Fields de mathématiques, donc considéré comme un des plus grands mathématiciens du monde, et qui vont commencer à porter un regard très critique sur la recherche scientifique. Au départ, principalement parce qu'ils se rendent compte que leur recherche, aussi abstraites peuvent-elles paraître dans le cadre des mathématiques, finalement servent le complexe, pour employer des grands mots, militaro-industriel. Donc au départ, ils prennent conscience de ça, qu'en fait la recherche fondamentale n'est pas si fondamentale et détachée des enjeux sociaux que ça. Et en partant de cette critique de la technoscience, ils vont donc se poser un certain nombre de questions sur la place de l'humain dans la société, sur cette société technocratique qui se met de plus en plus en place, et ils vont commencer à s'éloigner, et même pour certains, à arrêter la recherche. Et ils vont être à la naissance, on va dire, d'une forme d'écologie politique, d'une forme d'écologie radicale qui existe encore aujourd'hui, mais dont, je dirais, les principales branches qui en sont issues sont devenues des branches gestionnaires technocratiques qui se posent des questions, en effet, par rapport à l'empreinte écologique, par rapport à l'écosystème, mais qui, en fait, sur toutes les questions sociales et sur la place de l'humain, finalement, rejoignent la mise en gestion du monde. Donc le livre de Tom Joe, L'Enfer Vert, nous intéresse vraiment par cet aspect-là. Hein, c'est vraiment une thématique très, très forte dans la maison d'édition. Donc retrouver un petit peu, on va dire, la subversion théorique et pratique qu'il pouvait y avoir dans l'écologie à l'origine, et puis aussi évidemment la critique des nouvelles technologies, qui est un thème aussi qui nous est très cher, hein, qui est vraiment au cœur du livre L'Enfer Vert. Donc voilà, toutes ces thématiques, on les a déjà développées par ailleurs, et on trouvait très intéressant de publier ce livre-là, parce que non seulement il articulait vraiment on va dire le dévoiement de l'écologie, la gestion technocratique, l'invasion des nouvelles technologies. Il articulait vraiment toutes ces thématiques-là, et en même temps, il avait un certain ancrage local dans le nord, dans la ville de Lille. Donc c'était aussi une illustration. Et ça, c'est très très important de partir aussi, je dirais, de cas concrets de là où on est. C'est pour ça que ce livre est publié dans la collection Négatif, qui est animée par un collectif grenoblois, hein, qui est très important pour notre maison d'édition. Ce sont les gens de pièces et main d'œuvre qui luttent, comme ils les appellent, contre les nécro-technologies depuis bientôt une dizaine d'années, qui ont publié là une dizaine de livres dans notre maison d'édition, hein, qui sont directeurs de collection, de leur collection Négative. Donc ils publient à la fois leurs livres, qui peuvent traiter de Grenoble, justement, et on a un éclairage, on parlait de Lille, un peu comme un pôle technologique, mais le grand pôle technologique en France, c'est Grenoble. Les gens de pièces et main d'œuvre habitent à Grenoble, viennent de là, luttent localement, et publient énormément de textes qui rejoignent donc aussi nos préoccupations. Donc voilà, le livre de Tom Joe avait vraiment toute sa place, et ce sont les gens de pièces et main d'œuvre qui se sont occupés du travail d'édition.
Alors ça, c'est la collection Négative, hein, du catalogue des éditions L'Échappée. Avant de parler des autres collections, on va parler un peu du départ de ces éditions. Comment s'est né en fait L'Échappée, avec qui en fait?
Alors en fait, on était deux, hein, donc deux militants libertaires. On avait, je dirais, un parcours militant assez classique, hein. On avait été dans différents collectifs de lutte, que ce soit des collectifs de lutte contre les publicités sexistes, des collectifs de lutte contre les discriminations, contre en soutien au peuple du Chiapas en lutte. On venait aussi de la lutte antifasciste, donc voilà, on était des militants, je dirais, assez classiques, avec une grande attirance à la fois personnelle et puis politique pour les écrits, pour le livre, avec l'envie vraiment de développer une maison d'édition. Donc au départ, je dirais que ça ne part pas d'un projet politique bien défini. Après, il s'est dessiné, enfin, on ne peut pas dire que la maison d'édition est un projet politique, mais on a une ligne éditoriale de plus en plus affirmée, ce qu'on n'avait pas forcément au départ, hein. Les deux premiers livres qu'on publie, c'est « Qu'est-ce que l'anarchisme ?», donc une traduction de deux textes d'une grande figure de l'anarchisme, Alexander Berkman, qui explique très simplement ce qu'est l'anarchisme. Donc le rapport à l'État, le rapport à la religion, le rapport au capitalisme, de manière très simple et didactique. Donc pour nous, c'est un peu un ouvrage fondateur, même si, bon, honnêtement, c'est une vision de l'anarchisme, voilà, qui est assez datée, qui mériterait d'être revue, etc. Mais on a lancé la maison d'édition là-dessus, et on a publié en parallèle l'histoire des ordonnées du Mille. Donc le Mille, qui est un mouvement de tendance libertaire opposé à Franco, mouvement révolutionnaire, hein, dans l'Espagne au début des années 70. Donc qui a inauguré notre collection, qui revient donc sur l'histoire des mouvements d'émancipation, des mouvements révolutionnaires. Donc on a démarré, je dirais, de manière assez classique. Après, on a publié un ouvrage sur le sexisme qui a très très bien marché, une petite synthèse qui est aujourd'hui épuisée. Et puis peu à peu, en fait, donc on a continué donc cette collection dans le feu de l'action sur l'histoire des mouvements révolutionnaires, mais nous-mêmes, nous sommes de plus en plus orientés vers des réflexions par rapport à la technoscience, par rapport au développement des nouvelles technologies dans notre société, et ce que ça pouvait induire socialement. Et donc on s'est mis de plus en plus à développer des livres sur ce thème-là, avec un livre pour nous fondateur, c'est une deuxième naissance de L'Échappée, qui est en 2007, le livre « La tyrannie technologique », critique de la société numérique.
Auquel tu as participé.
Voilà, auquel j'ai participé, voilà, j'ai coordonné, j'ai écrit l'intro et un texte, avec notamment Pièce et Main d'œuvre, qui écrit aussi une critique du téléphone portable dans ce livre-là. Célia Izoar, qui écrit un livre sur la biométrie. Moi, j'écris un texte sur l'emprise des écrans, comment les écrans ont complètement envahi nos vies. Et puis Guillaume Carnino qui avait écrit un texte sur, on va dire, la pensée informatique, hein, pour aller vite. Donc voilà, cet ouvrage, il est très très important pour nous sur le plan intellectuel.
Alors ça fait partie, si j'ai bien suivi, si j'ai bien compris, de la collection Pour en finir avec, c'est ça ?
Voilà, c'est une collection en fait, alors à l'origine ça devait être des petits essais, bon finalement il y en a certains qui sont un peu plus épais qu'on ne l'aurait pensé, d'essais, on va dire, de critiques radicales sur des thématiques qu'on estime être un peu négligées par la critique sociale. Notamment, on a publié un livre, par exemple, sur la critique du sport qui s'appelle Foot Afrique, à l'occasion de la Coupe du Monde de football de 2010 en Afrique du Sud, qui a été écrit par Patrick Vassor et d'autres gens, donc qui est un intellectuel critique du sport. Et ça, voilà, je pense que le sport, par exemple, c'est une thématique qui est un peu un angle mort de la critique sociale, qui pour nous est assez fondamentale, puisqu'on part du principe, et c'est ce qu'on essaie de développer au travers de cette collection, que le capitalisme, on ne peut pas considérer que le capitalisme, on ne peut pas réduire le capitalisme à un système d'exploitation. Le capitalisme, c'est un fait social total qui a pour objectif, même si évidemment il n'y a pas une intentionnalité dans le capitalisme, mais en tout cas qui a pour objectif et pour effet de prendre le contrôle de toutes nos activités, de toutes les sphères, je dirais, de notre vie, de notre imaginaire. C'est la création d'un imaginaire, c'est la création d'un certain type de rapports sociaux, d'un certain type de rapport aux objets, d'un certain type de rapport au temps, à la durée, d'un certain type de rapport au territoire. Donc ça va saisir en fait l'ensemble de notre vie. Et ça, dans cette collection, donc, on a voulu l'aborder. Par exemple, quand on publie le livre « Le cauchemar pavillonnaire », la question de l'urbanisme, pour moi, elle est déterminante. Elle est déterminante. Et c'est aussi une question qui, si elle a été à un moment abordée avec un regard critique, ne l'est plus du tout. Alors que le fait que les gens cherchent ce bonheur individuel au travers du pavillon, cherchent à s'isoler de l'autre, avec toujours la peur que vienne s'immiscer dans cette petite vie, je dirais, on va dire, l'étranger, mais au sens large. Hein, l'étranger, c'est pas que l'immigré, c'est l'étranger, ça peut être l'autre. Ce refus de l'altérité, ce refus de l'autre, pour se refermer sur sa sphère privée, on pense que c'est tout aussi déterminant que les moyens de production. Et donc voilà, on a abordé cette question-là dans un livre, un pamphlet, qui a suscité pas mal de polémiques, même, on va dire, au sein de l'extrême gauche, puisque certains lui ont dit, oui, est-ce que c'est pas une position élitiste, une critique finalement de ce qu'est le peuple, puisque ce peuple-là aspire à ce pavillon, aspire à ce bonheur pavillonnaire. Et là, pour nous, c'est l'occasion de remettre en avant la question de l'aliénation, là aussi qui a été pas mal oubliée par la critique sociale. On n'est pas que dans des rapports de domination, on est aussi dans des rapports d'aliénation, hein, ce qu'on pourrait appeler, bon, pour aller vite, la servitude volontaire, mais qui est ce rapport d'aliénation qui est l'illusion du bonheur. Et on voit très bien que dans ces zones pavillonnaires règne la peur, ça va avoir des conséquences sociales, que règne une véritable souffrance psychologique qui fait que les gens consomment par exemple énormément, enfin, bon, d'anxiolytiques, de psychotropes, etc., fait que finalement les gens se retrouvent enfermés dans ce pavillon-là, quand bien même ils le désirent. Ce qu'on appelle l'aliénation. Et ça, on veut vraiment, vraiment, vraiment essayer de le repenser. Et on pense qu'il y a le même phénomène dans les nouvelles technologies. Donc voilà, cette collection, en fait, elle est très, très importante sur le plan intellectuel pour nous. Et je dirais que chacun des livres de cette collection va répondre à un autre. Hein, on complète à chaque fois, on construit. C'est ça aussi un catalogue d'un éditeur, même si, évidemment, on n'est pas d'accord forcément nous-mêmes avec tous les livres qu'on édite. Nos livres peuvent parfois être contradictoires, mais en même temps, il y a la volonté de construire un catalogue avec un véritable projet intellectuel. Donc les livres se répondent, je dirais, les uns aux autres.
Alors très vite, peut-être les deux dernières collections, Frankenstein et puis Action Graphique.
Alors Frankenstein, c'est une collection entre guillemets un peu plus universitaire, même si on n'a pas du tout vocation à être une maison d'édition universitaire, qui regroupe des textes, des travaux collectifs. Hein, donc Survivre et Vivre, par exemple, ce serait une anthologie de textes. On a publié Les Ludites en France, donc c'est sur les mouvements de briseurs de machines, hein, qui refusent la modernisation, qui sont très connus en Angleterre, un peu moins en France. Et donc là, voilà, c'est un ouvrage collectif avec des militants, des historiens, etc. Donc ça, c'est la collection Frankenstein. Hein. Et puis la collection Action Graphique, on a une sensibilité aussi, on va dire, aux questions artistiques, aux questions graphiques. On a envie donc de leur laisser la place au sein de l'échappée. Donc de faire des ouvrages qui pouvaient à la fois être des ouvrages qui regroupaient des photos, comme par exemple le livre Belleville Café, donc sur un quartier populaire à Paris, et donc l'histoire au travers de l'histoire de ces cafés, finalement l'histoire sociale de ce quartier. Ça pouvait être des dessins de Andy Singer, par exemple, très critique par rapport à la société de l'automobile. Et ça peut être aussi, alors ça, ce livre, c'est un bon livre, voilà, que moi, que j'aime beaucoup, hein, c'est un livre, c'était un rêve pour moi de l'éditer, qui s'appelle Gravure Rebelle, donc qui regroupe en fait des récits graphiques sans parole, fait donc en gravure sur bois, essentiellement gravure sur bois et gravure sur linoléum, de, on va dire, de grands artistes comme Mazrel, donc qui est très connu, mais de gens aussi comme Lynn Ward, qui est connu aux États-Unis mais très peu ici, donc qui raconte à la fois, c'est un récit sur ce qui pouvait se passer dans les années 30, hein, la dépression, la crise, et puis avec une dimension fantastique, onirique, et une libération de la personne. Ça se termine souvent par ça. Donc voilà, c'est vraiment des récits magnifiques qu'on avait envie d'éditer. Donc ça, c'est important à la fois, je pense, artistiquement et politiquement, de pouvoir publier ça. Et puis c'est aussi, parce qu'éditer, c'est ça aussi, c'est aussi un moment se réussir à, voilà, à se faire plaisir. Et il y a une forme de subjectivité aussi, c'est-à-dire dans ces choix d'artistes qu'on va éditer. Par exemple, là, un des livres très importants pour nous, qui, ça fait 2-3 ans qu'on travaille dessus, et puis même l'auteur, ça fait 4-5 ans, il va paraître en novembre, ça s'appellera Cuba Grafica. C'est une histoire de l'affiche cubaine, avec, donc on remonte à la période pré-révolutionnaire, à l'âge d'or en fait de l'affiche cubaine, hein, qui est un moment de 65, on va dire, à 75, où les affichistes sont en phase avec la révolution, en phase avec un mouvement culturel très fort, et vont créer des affiches absolument magnifiques jusqu'à la nouvelle génération d'aujourd'hui, qui a pris évidemment ses distances par rapport au régime, mais qui s'inscrit dans cette tradition de l'affiche cubaine. Donc ça va être un très très beau livre, et ce livre, ce qui est important pour nous, c'est qu'on l'a fait avec des Cubains. C'est-à-dire c'est essentiellement des Cubains, c'est bon, le coordinateur du livre, hein, le directeur du livre est un Français, un jeune graphiste qui a fait ses études de graphisme à Cuba, le seul Français qui ait fait ça, dans la seule école de graphisme à Cuba. Mais par contre, les auteurs et les gens avec qui on a travaillé sont des Cubains, donc avec toutes les difficultés, toute la lenteur, hein, que ça peut engendrer, mais aussi avec le fait qu'on donne la parole à des générations de graphistes cubains et avec des images magnifiques. Donc ça va sortir en novembre, et c'est un projet très important pour nous.
Cédric Biagini, donc des éditions L'Échappée. Aujourd'hui au Salon du Livre, vous êtes où en fait, au stand éditeur, c'est ça?
Voilà, on est au stand éditeur, donc un peu situé vers le milieu, à côté d'un autre éditeur ami qui s'appelle La Ville Brûle, avec qui on se retrouve souvent dans des salons. Donc là, on était content en arrivant de les voir à côté de nous. Donc voilà, on présentera voilà.
Tous les bouquins du catalogue, voilà, sont dans les cartons.
Voilà, tous les bouquins du catalogue à peu près, à part il y en a deux qui sont épuisés, mais sinon ils sont tous là. Donc si les gens veulent venir les voir, discuter avec nous, ben c'est l'occasion.
Merci Cédric Biagini, merci à Tom Jo, et puis dans quelques instants on va enchaîner avec un autre plateau, donc c'est Claire Lise Marguet, si j'ai bien compris, qui sera sur le stand de Radio PFM au micro de Boris, si tout se passe bien. Merci à vous deux, et puis auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à aller rencontrer Tom Jo et Cédric Biagini sur le Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale toute la journée à Arras.
This program presents Noam Chomsky speaking on government in the future. Here is Noam Chomsky. We'll be right back.